Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Tovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, après l'abandon du projet Europa City, quel partage des richesses entre les villes et leurs banlieues ? C'est un méga complexe de loisirs et de commerces qui devait créer des milliers d'emplois dans une zone déshéritée du Val d'Oise, marquée entre autres par les émeutes à Villiers-le-Bel en 2007. Le projet Europa City a donc été définitivement abandonné hier par le gouvernement, au grand dam des élus locaux, 4 mois avant les élections municipales. Des élections qui devraient relancer la question du développement économique des banlieues, alors que le chantier du village olympique a été lancé ce lundi en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre d'Île-de-France. Alors comment lutter contre les inégalités spatiales au sein des métropoles ? Le Grand Paris peut-il désenclaver les banlieues ? Et plus largement, quel modèle économique pour ces périphéries ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui en compagnie de nos 3 invités. À 14h50, nous accueillerons Jacques-Olivier Martin, rédacteur en chef du Figaro Économie. Il nous expliquera pourquoi Bercy s'intéresse aux réseaux sociaux. Et pour parler de la lutte contre les inégalités dans les métropoles, 3 invités autour de la table, 2 pour le moment, mais 3 dans un instant. Bonjour à vous, Laurent Davezy.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et vous avez publié La crise qui vient au seuil. À vos côtés, Frédéric Gilly, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'école urbaine de Sciences Po, auteur de Grand Paris, l'émergence d'une métropole aux presses de Sciences Po, et vous êtes aussi associé de l'agence Grand Public qui fait de la concertation, c'est cela ?
C'est ça, on accompagne des territoires et des institutions à partir du moment où elles considèrent qu'elles seront plus intelligentes si elles font leurs projets avec les gens.
Et on accueillera dans un instant Marie-Hélène Baquet, qui est sociologue et professeure d'études urbaines à l'université Paris-Ouest. Un grand merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui.
Notre conviction aujourd'hui est qu'Europa City n'est pas la bonne réponse aux défis du territoire et qu'il n'est pas cohérent avec l'ambition que nous portons en matière de transition écologique. Tout d'abord, c'est un projet qui répond à une conception datée de l'aménagement du territoire et d'un certain modèle de consommation qui ne répond plus aux attentes de nos concitoyens. Europa City participe au développement de centres commerciaux toujours plus grands en périphérie de nos villes. C'est un modèle qui a largement contribué à la crise du petit commerce ces dernières décennies, à la dévitalisation du cœur de nos villes et de nos bourgs, ainsi qu'à une dépendance toujours plus forte à l'automobile.
Europa City apportait un espoir d'emploi sur notre territoire. Et 10 000 emplois dans les 10 ans à venir, pour le Val d'Oise, c'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Mais c'est pas possible. Elle est où l'équité ? Il est où le Val d'Oise ? Moi, je peux dire, à ce moment-là, on s'arrête. On arrête tout, on barre d'un trait le Val d'Oise. Eh ben non, on barre pas d'un trait le Val d'Oise.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, suivie de la présidente du conseil départemental du Val d'Oise, Marie-Christine Cavecchi. Un premier tour de table sur l'abandon de ce projet Europa City qui était censé ouvrir en 2027 à Gonesse, à 15 km donc au nord de Paris. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement et une mauvaise nouvelle pour l'emploi, Laurent Davezy ? Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça ou est-ce que ce serait trop simple ?
Je vais y aller doucement parce que il faut avoir travaillé sur ces dossiers pour en parler un peu sérieusement. Hein. Moi, j'en parle en tant que lecteur du Monde, ce qui est pas suffisant. Ça légitime pas le fait que je parle dans le Poste aujourd'hui. Même si je peux avoir des doutes sur les deux aspects de
alors expliquez-nous vos doutes.
Parce que c'est vraiment ça qui va sauver l'environnement, c'est pas sûr, d'autant plus qu'on a des projets alternatifs qui vont aussi dénaturer, comment dire, artificialiser les sols.
Le fait que l'urbanisation n'a pas été abandonnée, l'urbanisation
en termes d'emploi, les 10 000 emplois, c'était un peu un rêve. On était plutôt en dessous hein, dans les estimations. Mais je me tourne vers Frédéric Gilly, qui est en face de moi, parce que lui, il a travaillé sur la question, donc c'est plus intéressant de l'interroger.
Non mais juste, on entendait la ministre à l'instant là, qui disait « conception datée de l'aménagement du territoire ». Et du modèle de consommation, et après elle développe pourquoi c'était un modèle de consommation daté. Mais elle développe pas la question de l'aménagement du territoire. Mmh. Et derrière, on entend la présidente du conseil départemental du Val d'Oise qui dit ça a apporté un espoir pour l'emploi, et maintenant c'est fini. Je pense que Au-delà de la question de Europa, c'était bien, c'était pas bien, etc. Ce qui est intéressant dans cet échange-là qu'on vient d'entendre, c'est la question de où est l'espoir et d'où il vient. Et est-ce que l'espoir il vient de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de l'intérieur? Et pourquoi est-ce que la présidente d'un conseil départemental, dont les chiffres disent qu'il est parmi les départements les plus innovants de France, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des terres de pauvreté. Gonesse, c'est un des endroits les plus pauvres de France. Villiers-le-Bel, c'est un des endroits les plus pauvres de France.
On parle vraiment d'un territoire situé entre les aéroports du Bourget et de Roissy qui a des grosses difficultés économiques.
Mais le département du Val-d'Oise et ces territoires-là dont on parle font partie, ces villes dont on parle font partie des endroits dans lesquels il y a des créateurs d'entreprises, il y a des porteurs de projets, il y a des jeunes qui ont des envies, qui ont l'innovation plein la tête. Le problème, c'est que personne dans ce pays ne considère que les jeunes, les quartiers populaires sont des terres dans lesquelles il peut y avoir les racines de l'espoir de demain, eh ben, une fois qu'il n'y a plus un projet qui vient de l'extérieur, on dit c'est foutu.
Pour vous, s'intéresser à la question à l'échelle du département et en faisant du bottom-up, comme on dit.
Je dirais Europa City, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais je regarde ce qu'il y a derrière et je me dis, mais c'est intéressant, enfin c'est intéressant et c'est un peu flippant, c'est que quand un projet disparaît, on se dit, mais en fait, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas plus rien. Il reste des habitants, il reste des entreprises. Et pour le coup, Laurent Davzy disait là à l'instant qu'il se trouve qu'effectivement, moi j'ai travaillé à un moment donné, il y a quelques années, sur le volet concertation de ce projet. On a travaillé pendant 2 ans pour Europa City en amont du débat public et juste après le débat public. Et ce qu'on avait senti sur ce territoire-là, on leur avait dit d'ailleurs, c'est que les jeunes de Villiers-le-Bel, moi je me souviens d'une réunion, il y avait 200 personnes au dernier étage de la maison de quartier Salvador Allende, à Villiers-le-Bel, et où il y avait une énergie dans cette salle. Il y avait les mamans avec leurs enfants, il y avait les jeunes qui étaient venus. Et ils venaient pas en disant à Europa City, vous nous amenez des emplois. Ils venaient, je vais prendre un tout petit peu de temps, mais il y avait une discussion pendant cette réunion-là, entre, je dirais, le collectif pour le triangle de Gonesse, qui n'était pas encore dans sa forme actuelle, mais qui était déjà là, les jeunes des quartiers, et dans toutes leurs dimensions, et Europa City. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a un des jeunes qui se lève, qui dit, mais je comprends pourquoi on a un petit sujet. Il pointe les membres du collectif du triangle de Gonesse, qui, il faut le dire, avaient 2 à 3 fois la moyenne d'âge des jeunes du quartier, pas tout à fait la même couleur de peau, et pas tout à fait le même CV. Et il leur dit, je comprends complètement pourquoi votre position. Vous avez été installé dans la vie, et tout ce qui va bouger puissamment ce quartier, ce territoire-là, ça va désorganiser un équilibre dans lequel vous êtes plutôt peinard. Et je respecte votre parole. Il dit, nous, on est au fond du trou, tout ce qui peut nous aider, on le prend. Et après, il se tourne dans la foulée vers Europa City, et il leur dit, mais ne prenez pas ça pour un chèque en blanc. Parce que on est à côté d'Orly, on est à côté de Roissy, et des promesses, on nous en fait tous les ans. On nous dit, vous allez avoir l'aéroport et vous aurez des emplois. Vous allez avoir ci, vous aurez des emplois. Et à chaque fois, ça nous passe sous le nez.
Mais justement, donc, en l'occurrence, est-ce que ce projet-là était un projet qui était susceptible de créer beaucoup d'emplois? Parce qu'il y a même des gens, je pense à l'urbaniste Albert Lévy, qui disait que finalement, Europa City allait détruire 8000 emplois dans les centres commerciaux situés autour, dans les commerces des centres-villes. Donc, est-ce que c'est un projet qui était vraiment susceptible de créer un développement économique de cette zone?
Moi je pense que la question, c'est pas sur ce sujet-là que porte le problème principal qui reprochait à Europa City. Europa City aurait créé de l'emploi, aurait créé plus d'emplois.
10 000,
Ouais, je sais pas.
7 000, hein, de
gueule, aurait créé plus d'emplois que les projets alternatifs sur la table. Il se trouve que la ministre parle de modèle de consommation. Je pense que ce qui fait le plus. Ce qui percute le plus dans les arguments contre Europa City, c'est pas tellement le modèle de consommation, même si c'est celui qui marche le plus médiatiquement, c'est l'idée que vous avez à côté d'Europa City au sud, vous avez le parc de la Courneuve, et le fait d'urbaniser cette zone-là, ça interrompt une des principales continuités vertes depuis les forêts de Senlis, Chantilly, etc., du nord de la région parisienne, qui amène une continuité, une trame verte, mais assez large et assez dense, jusqu'en plein cœur de la métropole. Donc ça pose une question sur la façon qu'on a d'organiser nos métropoles, de concevoir leur développement. Est-ce que ou pas, c'est pas une question d'un parc, en gros, quoi. Et c'est pas la question de 40 ou 50 hectares. C'est la question de comment est-ce que on conçoit la continuité des trajectoires naturelles pour les animaux, pour l'eau, pour les... c'est autre chose que le modèle commercial.
Je voudrais faire réagir Laurent Davézy là-dessus, puisque vous avez beaucoup travaillé, Laurent Davézy, sur les fractures territoriales. Qu'est-ce que cet exemple précis de ce projet d'Europa City nous dit, justement, de ces fractures entre ville et banlieue, banlieue plus ou moins lointaine?
Oui, enfin, on peut pas dire que la porte d'entrée, l'œilleton génial pour regarder, pour répondre à la question que vous posez, c'est de regarder cette affaire d'Europa City. On peut regarder, on avait évoqué par exemple le Seine-Saint-Denis, des choses comme ça. C'est-à-dire regarder effectivement la banlieue de façon générale. Et on a effectivement une dynamique actuellement que tout le monde connaît, hein, qui effectivement vous avez une, il y a un paradoxe, c'est que vous avez une réduction des inégalités de revenus entre les grands territoires, les régions, les départements, les zones d'emploi en France, jusqu'à récemment, mais que au contraire, à l'intérieur des grandes villes, on va y aller doucement sur le terme métropole, hein, sur l'intérieur des grandes villes, on a au contraire une augmentation des inégalités sociales, mesurées par le revenu, entre les communes, entre les sous-territoires, les petits territoires. Et alors, donc c'est bizarre, à certaines échelles... Bonjour Marie-Hélène Baquet.
Marie-Hélène Baquet vient d'entrer dans la salle. Bonjour Marie-Hélène Baquet. La métropole. Laurent Davézy.
À certaines échelles, les inégalités diminuent, à d'autres elles augmentent. Et elles augmentent au sein des grandes agglomérations, justement. Et en fait, c'est assez bizarre. Donc c'est pas les mêmes phénomènes qu'il y a derrière. C'est même des choses différentes. Ce qui joue beaucoup, en fait, c'est pas tellement le fait que les riches du centre-ville s'enrichissent et les pauvres de la périphérie s'appauvrissent. Ça a été relativement peu traité. Robert Reynard de l'INSEE, il faut citer, avait fait un vrai travail sérieux. Il n'a pas eu tant que ça qui ont été faits pour montrer dans le cas lyonnais, dans le cas de l'agglomération lyonnaise, quelles étaient les contributions respectives à l'augmentation des inégalités sociales de revenus, en l'occurrence, des mécanismes de spécialisation sociale, c'est-à-dire les gens, les riches déménagent pour partir dans les quartiers riches, les pauvres déménagent pour aller dans les quartiers pauvres, et on spécialise les territoires, et la dynamique intrinsèque, les riches s'enrichissent ou les pauvres s'appauvrissent. Et en fait, l'essentiel de la dynamique actuelle d'augmentation des disparités à ces échelles fines, le géographe dirait la grande échelle, hein, les géographes sont toujours très compliqués.
À l'échelle de la métropole, même si
non,
vous ne voulez pas...
Non, la grande échelle, c'est à l'échelle intercommunale.
Alors peut-être qu'il va falloir revenir sur cette définition de la métropole, on va accueillir Marie-Hélène Baquet.
Et je perds mon public. Je termine. Ces disparités qui augmentent entre les communes, si vous voulez, au sein des grandes agglomérations, tiennent très largement à des mécanismes de spécialisation sociale, alors même que vous pouvez imaginer que les pauvres s'enrichissent plus rapidement que les riches, socialement. Donc attention, la question sociale, la question territoriale se pose dans des termes radicalement différents, notamment dans la question du centre et des banlieues.
Marie-Hélène Baquet, donc je vous représente pour les auditeurs. Vous êtes sociologue, professeure d'études urbaines à l'Université Paris-Ouest, autrice de Retour à Roissy, un voyage sur le RERB paru cette année aux éditions du Seuil. On va en reparler. On a commencé à cette discussion autour de l'abandon du projet d'Europa City et on pose la question de pourquoi la ville de Paris continue à s'enrichir tandis qu'on observe qu'un certain nombre de banlieues, de villes de banlieue s'appauvrissent. Et alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut dire, Marie-Hélène Baquet? Est-ce que c'est lié à l'emploi d'abord? Est-ce que c'est lié au logement? Qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que c'est lié aux deux. C'est-à-dire qu'il y a une concentration dans Paris d'activités, de bureaux, qui est importante. Et puis il y a aussi toutes les activités de tourisme qui jouent un rôle important. Et donc il y a une dynamique sociale, alors qui est pas complètement calée sur la dynamique économique, mais il y a une dynamique sociale de concentration. Des ménages très très aisés et de fuite des populations les plus populaires et même aujourd'hui des classes moyennes qui n'ont plus les moyens d'acheter à Paris. Donc il y a aussi une dynamique tout simplement des prix immobiliers avec une bulle immobilière qui s'est constituée et qui fait que Paris a tendance à s'enrichir de plus en plus. Donc je pense que les deux dynamiques son parallèle.
Et on peut se demander comment le transport, le développement des transports peut remédier à cela. Est-ce que le projet du Grand Paris peut contribuer à désenclaver des banlieues? On peut imaginer qu'il y aura des gagnants et des perdants, hein, Marie-Hélène Baquet.
Il y aura des gagnants et des perdants. Alors ce qu'on constate quand même, c'est que le projet de transport du Grand Paris, c'est d'abord un projet qui lie les zones d'activité, les zones développées entre elles, et qu'il n'y a pas réellement eu de réflexion sur la mobilité quotidienne des habitants des secteurs de banlieue qui nécessitent effectivement d'être désenclavés ou en tout cas d'être mieux desservis. Donc est-ce que cette mobilité là va permettre de juguler les inégalités? Ce n'est pas sûr. D'abord, il va y avoir sans doute des phénomènes d'enrichissement, d'embourgeoisement de certaines zones. Et d'ailleurs, c'est ce que je voyais quand j'ai fait ce voyage le long de la ligne du RER B. Il y a une très grande inquiétude des habitants et en même temps une attente, parce qu'il y a une attente d'une meilleure desserte. Il y a une inquiétude pour savoir est-ce que ça sera pour nous. Et puis, il faut voir que tous les projets de gare sont quand même, grosso modo, des projets qui ont été laissés au secteur privé. Et aujourd'hui, ce qu'on construit autour des gares, ce sont des opérations immobilières privées qui visent d'abord à attirer des classes moyennes ou supérieures.
Laurent Navezi.
Oui, moi, on ne savait pas. Moi, on a aussi fait un livre sur le RB. Moi, je ne savais pas, dans une autre, aux arènes. Et moi, j'ai regardé un petit peu ce que donnait sur le plan économique. Le RER A et le RER B, hein, ça fait il y a 40 ans qu'on les a montés. J'étais très surpris, mais j'ai vu que je ne vais pas être surpris parce que l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France l'avait déjà plus ou moins montré. Qu'en fait, ces grandes infrastructures, RER A et B, c'est colossal, c'est les deux premiers transports urbains d'Europe, hein, au niveau de fréquentation, n'ont pas eu d'effet d'entraînement ni sur le plan de la démographie ni sur le plan de l'emploi. Faut le faire.
Quand même. Et alors, comment on l'explique?
Ça s'explique un peu par ce que vient de dire Marie-Hélène Baquet, parce que le seul endroit où c'est pas vrai, c'est l'endroit où on a du logement social, c'est la ceinture rouge. Il faudra un jour faire des statuts aux élus communistes qui ont effectivement permis d'associer infrastructures de transport lourdes et logement social. On est dans Seine-Saint-Denis à combien? 30% du logement social, le logement et les sociaux. Hein. Là, effectivement, ça a eu des effets positifs. Et on a eu effectivement augmenté la population. Si vous prenez le sud, le RB, toute la partie sud, qui est beaucoup plus riche, et il s'est passé ce que vient de dire Marlène Becker, ça a été effectivement des territoires dans lesquels on a fait plutôt des opérations privées, les prix ont plutôt augmenté, et ça n'a pas duté, et quelque chose qui a bénéficié aux populations les plus modestes. Et donc, vous avez une espèce de truc, et qu'on a mis des milliards de francs à l'époque dans une opération qui n'a pas du tout eu les effets qu'on aurait pu attendre. Donc, attention, c'est une leçon pour l'avenir. L'idée, c'est que si vous faites des opérations de ce type-là, il faut penser aussi logement social, il faut penser maîtrise urbaine autour des gares, ce que le Conseil d'État a refusé. Hein.
Oui, ce qui n'est pas du tout le cas.
C'est effrayant.
Et juste pour dire un tout petit mot sur Europacity, c'est quand même une bonne nouvelle que le projet ne soit pas réalisé, mais il reste quand même beaucoup d'inconnus. Il y a notamment un contre-projet qui a été réalisé, proposé par des associations, des habitants, des agriculteurs, qui ne s'oppose pas d'ailleurs à une partie de construction, mais voilà, que va faire l'État? Est-ce que la ligne 17 va être réalisée?
J'allais vous demander, voilà, on peut se demander si cette ligne n'est pas menacée.
Oui, parce que 50% des passagers prévus sur cette ligne étaient liés à Europacity. Donc
est-ce qu'elle sera rentable? Voilà, c'est la question que posait le patron de Citrus, Vianney Mulliez, qui était à l'origine du
voilà.
Projet
Europacity. Est-ce qu'il faut la développer? En tout cas, le projet Karma, par exemple, n'est pas du tout appuyé sur une desserte. Donc voilà, tout ça, ça amène à réfléchir un peu plus globalement l'ensemble du projet.
Effectivement, on se demande si le Grand Paris va entraîner les créations d'emplois que l'on espère et si cela ne dépend pas en grande partie, Frédéric Gilly, de ce qui sera fait sur le plan du logement.
Mais, c'est-à-dire que je dirais, le Grand Paris express et le Grand Paris au sens large des habitants, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai assez confiance dans la capacité de la région parisienne, dans son ensemble, à créer assez d'emplois. C'est une zone, c'est la zone la plus jeune d'Europe. On contribue. Si vous prenez l'excédent naturel de la région parisienne, c'est l'équivalent de l'excédent naturel de l'Union européenne. Une zone dans le monde d'aujourd'hui, une zone jeune, bien formée, avec des infrastructures.
Mais justement, la question de la formation est centrale.
Le problème, c'est que effectivement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que Ça suppose un tout petit peu de maîtrise institutionnelle, tout ça. C'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de la capacité qu'il y avait localement autour de Gonesse, Goussainville, Villiers, Aulnay, etc., à identifier plein de jeunes et des moins jeunes qui ont énormément de projets. Le problème, c'est que quand on bossait sur ce coin-là, ce qui sort, c'est quoi ? C'est que l'éducation nationale ne s'occupe pas de cet endroit-là. Les lycées professionnels, les lycées généraux ne suivent pas les évolutions des besoins locaux de formation, que le marché du travail est gravissimement dysfonctionnel. Il y a eu les travaux d'Yannick Lorty qui montrent qu'en gros, c'est dans ces endroits-là que la capacité que les jeunes ont à déboucher, trouver du boulot dans les entreprises de leur coin, quoi, où c'est les voisins qui sont les patrons. Enfin, c'est là où ça marche le moins. C'est-à-dire le marché du travail, la main invisible du marché du travail, elle marche pas bien là, en gros, quoi. Et derrière ça, y a la question de comment est-ce que, si jamais ça décolle, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça décolle pour les habitants du coin ?
Il y a eu la question des retombées économiques, en effet.
On travaillait récemment pour la ville de Logne, en Seine-et-Marne, et il y a une habitante qui dit, quand on l'interviewe, elle dit « Oui, ça va bouger, ça va s'améliorer. Logne, ça va se développer. Mais les Logneaux, je sais pas. Est-ce que nous, ça va bien se passer ?» Et c'est une question qu'on a aujourd'hui, nous, enfin on interviewe des milliers de franciliens tous les ans. C'est une question qu'on retrouve en proche, en grande couronne, dans Paris, dans les banlieues riches, dans les banlieues pauvres. Je veux dire, vous avez la même question qui revient à Sceaux, à Aubervilliers, à Vitry ou à Saint-Germain-en-Laye.
Marie-Hélène Baquet.
Oui, c'est une question très importante. C'est-à-dire, c'est pour qui et avec qui est-ce qu'on fait la ville ? Et est-ce qu'on fait du développement avec les forces qui sont en présence et pour elles ? Ou est-ce que c'est encore des grands projets construits d'en haut qui vont venir s'imposer avec des dynamiques attendues qui souvent n'arrivent pas ? Donc, cette question-là de comment est-ce qu'effectivement on réunit les forces en présence, les acteurs en présence, les acteurs locaux pour construire du projet avec eux est fondamentale.
Les grands projets, on peut les souhaiter aussi. Le truc, c'est comment est-ce qu'ils arrivent de manière humble et comment est-ce que localement, on arrive à les approprier. C'est-à-dire que dans une métropole comme la région parisienne, on est à Paris, dans une des 4-5 capitales de la globalisation. Donc soit on dit, on coupe tous les ponts, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on invente un modèle complètement alternatif. Soit on crée les conditions pour que les gens viennent s'installer dans la région parisienne, entre guillemets, aux conditions du développement de la région parisienne.
Bien sûr, la condition, c'est aussi de pouvoir, mais il faut pouvoir aussi attirer des investisseurs étrangers. C'est aussi ça l'enjeu. Et quand on a un projet qui est abandonné, comme le projet d'Europa City, dans lequel le groupe Wanda, qui est le premier groupe de divertissement au monde, qui est un groupe chinois, et qui se voit, qui voit que ce projet est abandonné, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui envoie un mauvais message, Laurent Davézy, pour les investisseurs étrangers?
Non, enfin, les investisseurs, ils viennent, ils sont là, de toute façon, ils viennent. Moi, je voudrais revenir sur le point qui était un peu évoqué, hein, qui est, quand on fait un projet local, est-ce que ça va profiter aux locaux, aux loniaux, tu viens de dire ? Deux, ça vient croiser la question de la démocratie locale et de l'échelle de la démocratie. Prenons le cas de la Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, la moitié des emplois de la Seine-Saint-Denis sont occupés par des gens qui n'habitent pas en Seine-Saint-Denis. Les trois quarts des emplois de cadres en Seine-Saint-Denis sont occupés par des cadres qui n'habitent pas en Seine-Saint-Denis. Ça veut dire que l'essentiel des grands projets, dans des territoires qui sont tous dans un seul et grand bassin, qui est le bassin francilien, en fait. Hein.
Juste, je me permets de...
Oui, vas-y.
Parce que souvent, on a une mauvaise représentation de ces territoires-là. Il faut peut-être préciser que c'est pas parce que les compétences n'existent pas sur place.
Bien sûr.
C'est-à-dire la majorité des jeunes issus de ces quartiers-là ont des diplômes de l'enseignement supérieur.
Donc c'est de la discrimination ?
Mais quand même, discrimination, ça suppose qu'il y a une intentionnalité. Il n'y a pas forcément toujours de l'intentionnalité.
Tu as raison de préciser ce que tu viens de dire. En même temps, ça change pas ce que j'allais dire. Donc, d'une part, quand vous faites un grand projet, il va bénéficier dans un territoire qui est à l'intérieur d'un grand bassin, qui est celui de l'Île-de-France, et même parfois plus large, parce que ça monte en Picardie aussi. Hein. L'impact va être sur des gens qui ne sont pas les gens localement. Mais de la même façon, plus de la moitié j'ai le chiffre sous les yeux, 54% des gens qui vivent en Seine-Saint-Denis, qui travaillent, travaillent hors de la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, effectivement, c'est que, alors d'abord, c'est très compliqué de dire démocratie locale pour des projets locaux. Est-ce que les Lognaux vont en profiter ou est-ce que les gens vont en profiter? C'est parce que c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire fonctionner le grand bassin parisien. Et c'est vrai, je suis d'accord aussi, la métropole parisienne, c'est la région Île-de-France, au moins. C'est au moins la région Île-de-France. On a signé une tribune, d'ailleurs, dans le Monde, pour dire, pour rappeler ce fait, qui est un fait d'évidence quand on observe ce territoire.
Mais qui n'est pas administratif, c'est cela, au niveau administratif, la métropole.
Moi, j'ai beaucoup de chance. Un préfet d'Île-de-France me devait demander de regarder quels étaient les grands enjeux de gestion des grandes métropoles mondiales. On parlait de métropoles. New York, Sydney, Los Angeles, Tokyo, etc. On s'est partagé avec quelques camarades le job. C'était pas mal, on avait des billets d'avion, on est parti. On a été interrogé toutes sortes de gens dans ces grandes métropoles sur quels étaient les enjeux, les problèmes de développement durable, etc. Systématiquement, dans le rapport qu'on a rendu, on l'indique, tous les gens qu'on avait en face de nous disaient « Ah, vous, les Français, Parisiens, vous avez de la chance. »
Mais ça, c'était avant qu'on crée la métropole du Grand Paris.
Non, bien avant, c'est avant, bien sûr. Ils disaient « Vous avez de la chance, parce que vous avez une entité qui s'appelle la région qui marche. » Je termine. Si je considère, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis, que tous les projets qu'on fait en Seine-Saint-Denis bénéficient autant ou plus à des gens hors de Seine-Saint-Denis qu'à des gens de Seine-Saint-Denis. Et que si je considère aussi que la plupart, l'enjeu de l'emploi de Seine-Saint-Denis, il est hors de la Seine-Saint-Denis, le plus gros de l'enjeu de l'emploi des habitants de la Seine-Saint-Denis est hors de la Seine-Saint-Denis. Ça veut dire en clair que ce qui se passe, c'est qu'on a un système qui doit être géré, si on le prend au niveau démocratique, à l'échelle de cette grande région, pas à une échelle fractionnée. Si on fractionne, on est mort, on est foutu. Donc
à l'échelle de la grande Marie région, mais en s'appuyant aussi sur les instances locales et sur les
concertation, d'accord.
Ah oui, mais
si vous prenez l'intérêt,
le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces instances locales, ces collectifs d'habitants, ces mouvements qui se structurent dans ces quartiers sont totalement hors jeu.
C'est ça la grande difficulté.
Et c'est la même chose pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on va en parler. Mais quand on regarde la façon dont aujourd'hui se construit le projet des Jeux Olympiques, c'est en déconnexion totale avec les habitants et de façon totalement fractionnée. Donc là, il y a un vrai déni de démocratie.
On va développer toutes ces questions dans un instant.
Sous le train bleu, quand partent les galetteux, moi chaque jour sur la ligne de Pontoise, je reviens de Seine-et-Oise. Mon Cipi n'a rien de présidentiel, y a pas de wagon personnel, mais tel un ministre je voyage, et je me prends pour un personnage. Tout comme Doumer quand je descends du train, au mécano je vais serrer la main. Oh, mon train de banlieue, c'est le plus chic, le plus beau, le plus joyeux. Je sais bien que ce n'est pas un rapide, ça ne fait rien, il ne part jamais vide. Dans le wagon pour 10, on s'écrase 26, mais jamais les femmes n'y sont debout, car on les installe sur nos genoux. C'est le boudoir des amoureux, mon joli train de banlieue. Mais le temps passe et quand je serai vieux, pour finir mes jours heureux, profiterai des retraites colossales que me fera l'assurance sociale. En soignant mes rosiers, mes jasmins, sans songer au lendemain, je me livrerai à l'ombre fraîche, au plaisir tranquille de la pêche, et tout en taquinant le gardon, les yeux rêveurs, je guetterai l'horizon. Quand mon train de banlieue arrivera tout guilleré, tout joyeux, je penserai avec un peu de tristesse que jadis fut toute ma jeunesse. Je regretterai le taco m'emmenant au boulot, les éclats de rire, les baisers fous des petites femmes assises sur mes genoux.
Mon train de banlieue, chantait Régor en 1931. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Marilène Baquet, Laurent Davzy et Frédéric Gilly sont toujours avec nous pour parler de la lutte contre les inégalités entre centre et périphérie. Alors afin de mieux comprendre ces effets, revenons, si vous voulez bien, aux origines du phénomène de métropolisation. D'abord, à quoi cette notion de métropole renvoie-t-elle précisément, Laurent Davzy?
Je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord sur ces questions, parce que c'est un mot extrêmement, c'est un mot valise, un mot flou. Moi, je pense que ce qui vient au départ, c'est la nouvelle économie géographique dans les années 90, où il y a eu une espèce d'hymne à la concentration spatiale des facteurs de production, à Big is Beautiful. Après une phase des années 70, on disait Small is Beautiful, on est revenu effectivement à une idée que c'était la concentration spatiale, c'était les grandes villes qui faisaient finalement la différence, avec les travaux de Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel, etc. Mmh. Et que on est parti de ce constat-là pour arriver effectivement à un phénomène, effectivement, à une notion de métropole, en disant qu'effectivement, c'est des systèmes métropolitains qui organisent les territoires, les systèmes métropolitains ont des cœurs de métropole, et petit à petit, on est arrivé à cette idée du législateur qui était de créer des métropoles, 22? C'est compliqué parce qu'il y en a une, celle de Lyon, ça en a une spécifique.
Mais c'est en tout cas lié à une transformation de l'économie, c'est-à-dire le fait de passer une économie de la matière grise à cette transformation du système productif.
La transformation, elle a commencé dans les années 80. C'est lié à ça aussi, bien sûr. Ça a été une transformation radicale de la géographie du système productif français et des pays industriels de façon générale, et mondiale, tant qu'on y est. Où effectivement, les choses sont revenues beaucoup dans les grandes villes, dans les centres-villes.
Frédéric Gilly.
Non, mais de fait, on vit depuis, je dirais, le début des années 80, fin des années 80, début des années 90, une transformation complète de nos modèles de vie, d'organisation économique. C'est l'effet, c'est plein d'effets conjugués, la libéralisation des marchés financiers qui se traduit par une massification des flux capitaux, la numérisation de l'économie qui se traduit par une horizontalisation plus poussée, plus facile des dispositifs, plein de trucs qui étaient un peu amorcés avant mais qui explosent complètement, la diminution, enfin le fait que ça bouscule le rapport de force entre les États et les entreprises et qui font que résultat, ben tout le débat sur la dette, on l'aurait pas dans les mêmes circonstances dimensions auparavant.
Mais donc aujourd'hui, plus les villes sont grandes, plus elles sont dynamiques sur le plan économique. Ça, c'est ce qu'on constate.
Ben non, c'est ce qui se raconte. Mais de fait, quand on regarde dans le détail aujourd'hui ce qui se passe, il y a des superbes travaux d'Olivier Boubalga et Michel Grossetti là-dessus. On voit que il y a des grandes villes qui vont pas bien, il y a des grandes villes qui vont très très bien, il y a des petites villes qui vont bien, il y a des petites villes qui vont pas bien. Il se trouve que dans un système économique contemporain, on a absolument besoin de certains avantages spécifiques que les grandes villes sont les seules à pouvoir proposer, parce qu'il y a des effets de masse, parce qu'il y a des effets d'accumulation, parce qu'il y a des effets d'infrastructure, qu'il faut que certaines infrastructures, il faut une taille pour les rentabiliser, et il y a d'autres spécificités de l'économie contemporaine qui appellent du petit. Et le problème, c'est que on est aujourd'hui incapable, chercheurs, élus, personne n'arrive à produire le récit articulé politiquement, intellectuellement, de ce nouveau monde dans lequel on bascule. Et je termine juste par là, mais pourquoi est-ce que la conférence de presse du président de la République au moment de la sortie de la crise des Gilets jaunes a pas marqué le point? Parce qu'on sort d'un moment dans lequel on a un pays qui est en vrac complet et qui pose cette question-là, qui pose la question de quelles sont les solidarités qu'on a entre nous, quelles sont les solidarités, même quand les gens constatent que les banlieues se mobilisent moins, les banlieues populaires se mobilisent moins, et que pas mal de jeunes disent, mais enfin, vous savez, enfin, nous, ce que vous prenez sur la tête, là, en ce moment, on se le traîne depuis des années. Donc, en fait, on sait que ça sert plus à rien de se bagarrer ou que ça sert de se bagarrer différemment. C'est une question de solidarité nationale. On doit réinventer ces trucs-là. Et c'est sur ça qu'on dit, c'est de ça dont on discute. Mais ça a des enjeux fiscaux, ça a des enjeux sur la question du logement social dont on parlait tout à l'heure.
On va revenir sur tous ces enjeux. Marie-Hélène Baquet.
Oui, ben, je rajouterais simplement que la métropolisation, elle se déroule aussi, elle s'opère dans un cadre de néolibéralisation, et c'est une des figures de la néolibéralisation urbaine à l'échelle du monde, avec une mise en concurrence des villes sur des bases de développement très productiviste finalement des villes, et c'est aussi marqué par des transformations dans les formes urbaines, avec le développement de formes urbaines périurbaines, et puis quelquefois le déplacement d'activités fortes économiques dans ces périurbaines l'urbanisation, donc qui conduit effectivement à transformer profondément les modes de vie et à reposer autrement la question de la solidarité urbaine qui devient majeure.
Laurent,
Moi, je pense que on va être moyennement d'accord. Prenons les fétailles, prenons les aires urbaines. C'est une mesure que l'INSEE a imposée, qui est plutôt intelligente. On a un vrai effet taille développement, taille croissance, taille PIB, taille emploi. Moi, j'ai publié, je vais pas vous sortir ça, sur les 30 ou 40 dernières années, on voit qu'effectivement, jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment de différenciation, les strates de taille de ville, ça, développé, si on prenait l'emploi salarié privé de la même façon. Depuis une dizaine d'années, ça s'est vraiment radicalisé. Si on prend les secteurs pointus, là, les secteurs qui sont le fer de lance de cette transformation énorme que tu viens d'évoquer, Frédéric, c'est quelques secteurs qu'on appelle métropolitains de façon tautologique, d'ailleurs, qui sont le numérique, qui sont ingénierie, études techniques, qui sont services supérieurs aux entreprises, ingénierie, etc. Tous ces secteurs-là. Depuis 10 ans, ils ont créé 300 000 emplois. 75% de cette création nette d'emplois, c'est le fait de 12 communes, pas de 3 aires urbaines, c'est 12 communes. C'est Paris, 5 communes du périphérique, c'est Toulouse, un peu Blagnac, c'est Nantes, un peu Saint-Herblain, c'est Lyon, et après, circuler, rien à voir. Donc on a quand même un effet très puissant.
Oui, mais
si on prend le PIB, il y a une concentration
de valeur ajoutée.
Attends, je termine. Et quant au récit articulé, c'est que ce n'est pas que cette économie-là qui fabrique les territoires. On est dans un monde dans lequel, on nous répète tous les jours, il y a 57% du PIB qui passe en dépenses publiques et sociales. Il y a des transferts énormes de revenus par des mécanismes privés. Je pars prendre ma retraite à La Rochelle, je fais du tour, etc. Qui fait qu'il y a d'autres façons de se développer sur les territoires en France, qui est la façon productive, mondialisée. Et donc on a une économie très différenciée qui fait qu'il y a de la place pour d'autres formes de développement, mais celle qui l'emporte aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 10 ans, maintenant c'est vrai, depuis 10 ans, c'est la forme métropolitaine.
Frédéric Gilly, rapidement, parce qu'après je voudrais qu'on s'arrête vraiment sur la Seine-Saint-Denis.
Ça marche. Juste, pour rebondir sur le débat, il y a eu un travail de l'INSEE Grand Est, il y a 2 ans, qui montrait que dans les 10 dernières années, les communes de la région Grand Est, dans lesquelles l'emploi industriel productif, industriel au sens très large, industrie et service, l'emploi productif, c'était le plus développé, c'était la couronne périurbaine et les villes moyennes, et pas du tout les cœurs des grandes métropoles.
Ah, oui, les couronnes périurbaines.
Les couronnes périurbaines, mais pas les couronnes périurbaines de Strasbourg. Les couronnes périurbaines des villes de 100...
Moi, j'en fais le travail sur la France entière, sur les créations brutes d'emplois. Donc, les créations brutes d'emplois industriels, ça se passe en grappe autour des 7 ou 8 grandes métropoles françaises. C'est une carte incroyablement nette.
On ne vous mettra pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, Marie-Hélène Baquet, vous avez publié il y a quelques mois « Retour à Roissy, un voyage sur le RERB », récit inspiré des passagers du Roissy Express de François Maspero. En 30 ans, vous qui avez fait ce trajet du RERB, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du paysage de ces banlieues? Comment est-ce qu'il s'est transformé?
Il s'est transformé d'abord par la périurbanisation, précisément. Notamment, on a pris le temps de se promener un peu autour de Roissy et d'aller voir dans l'arrière-cour de Roissy, dont on parle pas beaucoup, avec une série d'anciens bourgs qui sont aujourd'hui habités par la population, notamment qui travaille à Roissy, qui est une population salariée, mais des travailleurs pauvres, comme on les appelle aujourd'hui, issus largement de l'immigration, donc vivant dans une certaine précarité. On a une périurbanisation qui est très mosaïque, c'est-à-dire qu'à côté de villages comme ça assez dégradés, on va avoir des villages très protégés, au contraire. Je pense au village de Grécy, quasiment fermé, des clubs urbains, périurbains, comme dirait Éric Charme.
Donc on a même que dans une même ville, on voit des zones qui se gentrifient et d'autres qui se paupérisent.
Voilà, si on va à Saint-Denis, par exemple, plus proche de Paris, ou si on va à Aulnay, un peu plus loin sur la ligne du RER, on a le centre d'Aulnay qui a toujours été un centre un peu bourgeois, mais qui est en train de s'embourgeoiser. Et puis de l'autre côté de la voie du RER, on a les 3000, la Rose des Vents, qui est un quartier d'habitat social qui est en train de se paupériser parce que les emplois sont partis, tout simplement. Donc on a ces phénomènes très contrastés qui marquent de plus en plus le territoire de la banlieue, et avec quand même une forte présence des inégalités socio-spatiales qui marquent le territoire.
Comment est-ce qu'on explique historiquement que la pauvreté de la Seine-Saint-Denis soit aussi importante, que ce soit le département le plus pauvre d'Île-de-France? Est-ce qu'il faut considérer que la Seine-Saint-Denis ne s'est jamais remise du choc de la désindustrialisation
Je pense qu'effectivement, le point de départ, c'est d'abord, c'était un territoire ouvrier, donc c'était déjà un territoire très spécialisé du point de vue sociologique, qui a été largement touché par la désindustrialisation, mais qui aujourd'hui quand même connaît un certain nombre de secteurs en développement. Je pense que là, la plaine Saint-Denis, par exemple, en est un exemple, dans lequel on a accueilli, il y a des traditions d'accueil des populations ouvrières, puis des populations immigrées, qui étaient aussi d'ailleurs des populations ouvrières, qui ont été touchées voilà, de plein fouet. Et c'est un territoire dans lequel il y a un parc social relativement important, donc qui accueille ces populations, et en même temps un territoire où la population bouge beaucoup, et il y a un certain nombre de villes où il y a plus d'un tiers de la population qui bouge chaque année. Donc c'est pas non plus un territoire où on pourrait dire que la pauvreté est totalement enkystée. Il y a aussi du mouvement, et ça n'est pas qu'un territoire pauvre.
Vous le rappeliez tout à l'heure, Marie-Hélène Baquet, le Premier ministre Édouard Philippe a donné lundi le coup d'envoi du chantier controversé du village olympique en Seine-Saint-Denis. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à des retombées économiques pour la population de ce département? C'est en tout cas ce que promet le gouvernement. Frédéric Gilly.
Oui, mais après c'est... Vous allez dire que je suis un peu embêtant avec mes habitants que je cite tout le temps, mais on vient d'interviewer il y a 15 jours une habitante d'Aubervilliers, et elle disait, vous savez, c'est simple, les emplois étaient à Paris et ils nous ont mis là. Et maintenant ils sont en train de nous amener les emplois, mais ils nous envoient un peu plus loin, et c'est les bourgeois qui vont venir à notre place. Et je dirais presque que la question des dimensions dans lesquelles ça se passe, et que ce soit vrai ou pas vrai dans les faits, est presque secondaire. Le problème que ça souligne, s'il se trouve qu'en parallèle on bossait sur un office de HLM de l'approche couronne, on a fait une grosse enquête, et il se trouve que les habitants ne croyaient plus au fait que même quand on construisait des logements sociaux, c'était pour eux. Et donc, en gros, l'idée qui s'est installée, c'est une représentation politique. Mais je veux dire, quand l'idée qu'on va se faire virer de chez soi, en dépit de toutes les mesures techniques qui peuvent être prises, et sachant qu'il y en a par ailleurs qui décousent tous les liens de solidarité, en gros, les habitants de cette ville disaient, en fait, ne plus croire au modèle du logement social, et ils disaient penser que Et il disait en gros que le fait que le Grand Paris se développe, c'était très bien pour le Grand Paris, mais pour eux, ça allait être catastrophique.
Marie-Hélène Baquet.
Sur cette question du logement social, c'est normal qu'ils n'y croient pas, parce que depuis 10 ans, il y a des projets, des grands plans de rénovation urbaine qui sont menés dans les quartiers d'habitat social, et qui conduisent de fait à repousser certaines populations, à les repousser dans des zones plus pauvres, et donc au nom de leur bien-être, au nom de la transformation de leur quartier, donc ils n'y croient pas pour une part par expérience.
Et pourtant, après les émeutes de 2005, il y a quand même eu des milliards qui ont été injectés.
Laurent, il n'y a pas des milliards qui ont été injectés.
Ce qui c'est une tragédie, parce que d'un côté, on a les quartiers où on voudrait qu'il y ait plus de diversité, mais on a mal de chiens parce que les petits bourgeois ne veulent pas y aller, à cause des écoles, pour leurs enfants, etc. Donc on a beaucoup de mal à ramener des gens de la classe moyenne supérieure dans ces territoires-là. Encore que la part des cadres dans la population de Seine-Saint-Denis augmente, oui, hein, quand même. Hein, faut pas non plus de dramatiser trop. Et d'un autre côté, on a autre chose, moi, que j'ai constaté de la même façon que ce que Frédéric vient de dire, hein, dans des territoires sur lesquels j'ai travaillé, où, en Île-de-France, comme d'ailleurs en France, où les gens, dans les quartiers pauvres, vous arrivez avec des beaux projets, avec des maires communistes qui sont là pour essayer de vendre ces projets, etc. Et la population n'y croit pas, si le projet se fait, nos enfants n'habiteront plus là. Donc ça veut dire, on ne veut pas. Le cas, c'est le Louvre-Lens, par exemple. Le Louvre-Lens, tragique. Ils mettent un magnifique objet, le Louvre-Lens. La population des quartiers autour, on dit, attendez, mais on va nous virer.
Oui, c'est trop beau. Mais précisément pour la raison que tu viens de donner, je te cite, tu viens de dire, les maires bien intentionnés venaient vendre leurs projets.
Oui, c'est ça.
Bah ouais, mais parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas vendre des projets. Les projets, on les fait avec les gens.
Mais c'est la leçon.
Mais il se trouve qu'on peut tout à fait faire du développement, faire de l'aménagement, faire des transformations puissantes dans des quartiers qui en ont besoin, à la condition de le faire avec les gens.
L'advocacy planning des années 70.
Alors, et peut-être ça pose aussi la question, Frédéric Gilly, du pouvoir des élus locaux, qui est de moins en moins important, et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de maires qui ne souhaitent pas se représenter, et ça nous dit quelque chose.
Oui, mais ça, enfin, Je te racontais tout à l'heure qu'on avait travaillé il y a 5-6 ans avec Europa City. Et on avait interviewé des habitants du quartier, enfin du territoire, au sens large. Et je me souviens, ça nous avait frappé, nous, parce que c'est rare qu'il y ait des irruptions comme ça qui dans les enquêtes. Et il y a, pour la première fois, depuis ça s'est un petit peu développé, une infirmière qui nous avait dit « Le conseil que je pourrais donner à Europa City, écoutez, c'est qu'ils viennent travailler avec nous en direct et pas avec les élus. S'ils ont les élus et pas les habitants, ils ont tout perdu. » C'est dramatique. Elle avait raison, mais c'est dramatique de ce que ça dit de l'effondrement sur soi de la légitimité de la démocratie représentative.
Marie-Hélène Baquet, sur ce pouvoir des élus et sur leur légitimité remise en question.
Bah, oui, il y a effectivement une remise en cause de certaines formes de démocratie représentative, enfin de la démocratie représentative, parce que tout simplement une partie des habitants n'y sont pas représentés, soit parce qu'ils ne votent pas, soit parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, et puis parce qu'on a des élus qui sont quand même souvent loin sociologiquement de ce que sont les populations de leur ville. Sur cette question de la gentrification, nous on est en train de conduire une enquête, une recherche avec 100 jeunes qui habitent dans les quartiers populaires. Et ça nous a frappé de voir par exemple des jeunes qui habitent à Pantin, qui sont contents de voir leur ville se transformer, mais qui en même temps se sentent en sursis dans leur ville en disant « mais ça se transforme, mais ça ne sera pas pour nous ». Et en même temps, ils n'ont pas tort. C'est une vraie gageure. Et je suis d'accord avec Frédéric. Le seul moyen, c'est de travailler et d'élaborer les projets avec les habitants, ce qui ne veut pas dire s'enfermer dans des échelles locales, mais ce qui veut dire prendre en compte leurs demandes et faire en sorte que les projets correspondent aussi à la vie locale qui existe dans ces territoires.
Alors, qui a un problème sur la démocratie en général et sur la représentative en particulier, un problème très difficile à régler, hein, qui n'a pas du tout fin de le régler. D'accord. Pour autant, n'oublions pas quand même que les élus locaux, les maires, sont ceux qui sont les mieux élus. C'est-à-dire le taux d'abstention.
Avec 17% d'abstention est une ville comme Saint-Denis, le maire est élu avec par 17% des habitants.
Oui, parce que
on a des taux d'abstention et des taux de représentation électorale qui sont retombés à ce qu'ils étaient au début du siècle. Alors qu'on a là des banlieues populaires où les classes populaires c'était organisé.
Globalement, en France, les élus locaux se font encore élire convenablement.
Mais la question n'est pas de taper sur la tête des élus locaux. La question est de trouver les moyens de renforcer leur légitimité, de leur redonner du pouvoir.
D'enrichir la démocratie.
Est-ce qu'il faut y voir, par exemple, donc, l'incendie du chapiteau de cirque le week-end dernier à Chanteloup, les vignes dans les Yvelines? Est-ce que là, il faut y voir justement ce dont vous parlez, c'est-à-dire ce décalage entre des projets menés par des élus locaux et la réalité des attentes de la population, Marie-Hélène Baquet?
C'est pas très bien et je crois que personne ne sait exactement ce qui s'est passé à Chanteloup. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opération de rénovation urbaine, qu'il y a des tensions.
Il y a les dealers dans le quartier d'à côté.
L'explication par les dealers, elle est peut-être un peu courte parce qu'il y a une série d'entreprises qui savent très bien gérer. Quand on veut gérer la question des dealers, on sait aussi la gérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
On peut
discuter avec des dealers, oui, et il y a beaucoup d'endroits où de rénovation urbaine où on a démoli et tout simplement les dealers se sont déplacés un peu plus loin.
Ça pose la question effectivement, est-ce qu'il s'agit dans le cadre de Chanteloup-les-Vignes du symptôme d'une fracture sociale qui serait plus profonde ou est-ce que, on a entendu par exemple les termes du président du conseil départemental des Yvelines qui dit que c'est une folie de quelques crétins, on voit que on a du mal à poser un diagnostic.
Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des quartiers qui sont maltraités, des quartiers dans lesquels les services publics sont bien en dessous de ce qu'ils sont dans d'autres quartiers, dans lesquels le droit commun n'est pas respecté. Il n'y a pas d'égalité territoriale. Donc ça, je pense que c'est le premier point de départ. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
Oui. Et d'une certaine façon, on pourrait même dire que on a une pédagogie dans ces quartiers-là qui est d'apprendre à ne pas respecter le service public. Le service public ne me respecte pas, je ne le respecterai donc pas. Si on prend l'éducation nationale, qui est le premier facteur, le vrai problème de l'inégalité, c'est pas tellement qu'il y ait des pauvres. Le problème, c'est que ce soit toujours les mêmes qui soient riches et toujours les mêmes qui soient pauvres. Papa est riche, le fils va être riche, et papa est pauvre, le fils va être pauvre. C'est la mobilité sociale intergénérationnelle. Il n'y a qu'un truc qui peut faire contre ça, c'est l'école. Or, il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, c'est vrai qu'on est face à une pénalité.
Alors il y a des mesures qui ont été prises, qui ont été annoncées il y a une dizaine de jours.
Excusez-moi quand même. on met plus d'argent par élève dans la Creuse qu'en Seine-Saint-Denis, et pas comparablement. Donc on a un vrai problème de déficit, de défaillance sur le service public. Alors, ce que vient de dire Marianne Baquet est vrai, et c'est vrai aussi pour la police, de façon tout à fait étonnante, on reprend les chiffres, le taux de couverture au service public dans un territoire pauvre dans les années est quand même incroyablement bas. Et ça, ça peut provoquer des mécontentements.
Mais ça pose la question de tout ce qui a pu être fait, justement, dans le sillage des émeutes de 2005, oui, pour lutter contre ces inégalités.
Alors, vous disiez, beaucoup d'argent, non, il n'y a pas eu beaucoup d'argent par rapport au budget de l'État. C'est vraiment quelque chose de marginal. Par ailleurs, la rénovation urbaine n'a pas été payée par l'État. Elle a été payée par les collecteurs 1%. Donc, non, l'État n'a pas investi beaucoup dans ces quartiers. On est très loin de l'égalité, puisqu'on parle de retour au droit républicain. On est très loin de l'égalité républicaine, précisément. Il y a la Seine-Saint-Denis en train de devenir un désert médical, par exemple. Il y a la question des écoles, effectivement, qui est une question fondamentale. Et le plan sur la Seine-Saint-Denis ne dit rien sur les écoles. Donc, moi mon inquiétude, on fonctionne toujours par plan, donc un plan Marshall par-ci, un plan Marshall par-là, oui. Mais que sur le fond, il n'y a pas vraiment de véritable politique qui prennent en compte la réalité de ces quartiers et qui soient des politiques à long terme.
Frédéric Gilly.
Et puis, il y a aussi tout ce qui... Le travail de sape qui est fait par le rabot budgétaire systématique, qui a tapé... rabot budgétaire et en partie parfois idéologique, qui a tapé à partir de 2003, 2004, 2005 sur tous les financements associatifs dans ces quartiers-là.
Exactement.
À la fin des années 90, il y avait encore une vitalité associative qui faisait que les défaillances du service public classique étaient en partie épongées. Elles ne le sont plus. Et c'est pas pour rien que la maire de Chanteloup-les-Vignes, qu'on a vue vous le rappeliez à l'instant, c'est celle qui a mené la bagarre contre la fin des emplois aidés au début de ce quinquennat. C'est un brutal retour de l'histoire, quoi.
Laurent Davézy, sur ces politiques en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas réussi, en tout cas, cette volonté de répondre aux inégalités après les émeutes de 2005.
Eh bien, c'est un problème, c'est ce qu'on vient de dire. On vient de parler de ça. Sur les services publics fondamentaux, l'éducation et la police, moi je pense à la sécurité, on va dire, hein, plus largement que sur la sécurité comme sur l'éducation, ou l'éducation et la sécurité, on est très en dessous du compte. Alors on va mettre un peu d'argent sur les gens qui vont rester plus de 5 ans, etc. On a un turnover des enseignants qui est absolument dément. Un jeune prof sur deux, je crois, commence sa carrière en Seine-Saint-Denis, hein, et ensuite par ailleurs. Enfin, c'est dément. Il faudrait mettre des vrais professionnels d'enseignement. On met des bleus qui sont pas formés pour ça, en plus, qu'on confronte à des classes très difficiles. Et plus ça va, plus les gamins apprennent que les profs sont des bleus, et ça génère effectivement une dynamique qui est effrayante. Donc c'est très...
Et puis de la solidarité territoriale entre les communes. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris, il y a 2-3 ans, j'ai appris que donc Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne, la cité de Bois-l'Abbé, c'est une cité de Paris Habitat. Il se trouve que organisme HLM, il collectait une taxe sécurité. Les habitants de Bois-l'Abbé ne voyaient pas la trace des services de sécurité parce qu'en gros, ça bénéficiait de la sécurité dans les...
Alors, on arrive au terme de cette émission, on va arriver à la conclusion. Je voulais vous redonner la parole, Marine Maquet.
Je voulais juste rajouter qu'il y a un problème financier, mais il y a aussi un problème de méthode parce que, encore une fois, des services publics, il faut qu'ils travaillent avec les habitants. Et les rapports, par exemple, entre la police et les populations dans les quartiers populaires renvoient aussi aux méthodes policières. C'est-à-dire que la police, au lieu d'être agent de la paix, elle est très souvent dans l'opposition. Donc il y a vraiment des enjeux de formation, de co-formation entre policiers et population, et le fait que les services publics rendent des comptes aux citoyens.
Et peut-être pour finir sur une note un peu plus positive, Marianne Baquet, vous parlez de la place des femmes dans ces banlieues qui jouent un rôle, vous dites, beaucoup plus important que les clichés qu'on peut avoir sur la banlieue.
Oui, les femmes, elles font tenir ces quartiers complètement par la vie associative, par leur présence quotidienne dans la rue, contrairement à ce qu'on entend, elles sont aussi dans l'espace public. Et une des images qui m'a frappée le plus, parce que j'étais avec un photographe, et bien ce sont ces femmes qui portent des sacs lourds et qui marchent dans la rue et qui sont très très présentes en permanence. Donc les femmes sont partout, elles sont derrière les guichets de la RATP, elles sont dans les crèches, elles sont dans les associations, et je crois que ce sont elles qui sont porteuses notamment de valeurs de solidarité.
Un grand merci à tous les trois, Frédéric Gilly, Marie-Hélène Baquet, Laurent Davézy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Marianne Baquet, Retour à Roissy, un voyage sur le RERB, paru cette année aux éditions du Seuil. La crise qui vient pour vous, Laurent Davezy, paru également au Seuil. Et Grand Paris, l'émergence d'une métropole aux presses de Sciences Po, c'est votre ouvrage, Frédéric Gillien. Un grand merci à tous les trois. Il est 14h54 sur France Culture et nous accueillons aujourd'hui un nouveau partenaire, Jacques-Olivier Martin, rédacteur en chef du Figaro Économie. Bonjour Jacques-Olivier.
Bonjour Tiffaine.
Et vous avez choisi de nous parler de Bercy et des réseaux sociaux aujourd'hui. Le fisc prévoit d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Alors de quoi s'agit-il ?
Eh bien, pour optimiser la traque aux fraudeurs, Bercy souhaite pouvoir aspirer les données laissées par les internautes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter et les grandes plateformes comme Le Bon Coin. Et cela pour alimenter un algorithme qui alerterait les agents sur de possibles fraudes. Bercy veut traquer les signes extérieurs de richesse, regarder les photos publiées et même lire les correspondances. Ce grand filet numérique qui figure dans le projet de loi de finances pour 2020 sera examiné la semaine prochaine en séance par les députés. On savait que les entreprises du numérique collectent et dévorent nos données pour nous vendre des produits et engranger des centaines de milliards de recettes. On découvre avec cet article 57 que le fisc français se rêve en GAFA de l'impôt.
Et alors comment Bercy justifie-t-il une telle initiative ?
D'abord, au nom de l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale, personne ne peut finalement reprocher à Bercy de vouloir mieux traquer les fraudeurs. Ensuite, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, expliquait hier dans le Figaro du reste que certains pays anglo-saxons recourent déjà à cette pratique. Enfin, le ministre répète qu'il ne s'agit à ce stade que d'une expérimentation limitée à trois grands types de fraudes. Le trafic de marchandises prohibées, comme les cigarettes, l'activité professionnelle non déclarée et la domiciliation fiscale frauduleuse. Et de préciser que les décrets d'application sur le fonctionnement de cet aspirateur de données seront validés à la fois par la CNIL et par le Conseil d'État. Dormez tranquille, Bercy is watching you, mais proprement.
Visiblement, ce projet ne vous plaît pas, c'est peu de le dire, Jacques-Olivier.
Alors soyons clairs, Bercy réclame ni plus ni moins de pouvoir tester une surveillance de masse au nom de la lutte contre la fraude fiscale. On se croirait tout droit plongé dans le monde d'Orwell ou de Bradbury. Big Brother n'agit plus à l'aide de télécrans, caméras et autres micros installés partout pour observer et enregistrer les conversations. Le Big Brother du fisc, beaucoup moins visible, veut surveiller nos données. Louons la CNIL d'avoir tiré la sonnette d'alarme face à une telle perspective. L'institution use de mots particulièrement sévères pour dénoncer ce projet liberticide. Elle redoute ainsi que de telles pratiques poussent, je la cite, à modifier de manière significative le comportement des internautes qui pourraient ne plus être en mesure de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux et plateformes visées, comme au bon vieux temps du totalitarisme aurait pu ajouter la Commission.
Et cette mesure va-t-elle être adoptée ?
Alors, lorsque ce projet a été rendu public début octobre, je pensais qu'il susciterait un tollé vraiment auprès des parlementaires. Ça n'a pas été le cas. Quelques voix se sont élevées. Certains députés veulent renforcer les garde-fous, notamment en réduisant la durée de conservation des données. Mais rien de bien méchant à ce stade. Si le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas en fin d'année à l'article 57, alors il est très probable que Bercy lance l'expérimentation l'an prochain. Vous l'avez compris, Tiffaine, le cyberespace que l'on présentait comme le paradis des libertés, de la connaissance, de la démocratie, devient tous les jours un peu plus un territoire totalitaire qui grignote nos libertés.
Merci beaucoup Jacques-Olivier, on vous retrouve donc vendredi dans deux semaines pour une nouvelle chronique écho. On se quitte avec Freya Readings, Castles. La semaine prochaine, on s'attaque à la finance et aux fonds d'investissement, des fonds qui pourraient payer notre future retraite et financer la transition écologique, mais qui font aussi ressurgir le spectre d'une nouvelle crise. Lundi, ce sont les fonds souverains au service de la puissance des États qui nous intéresseront. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.